C'est pas tout à fait ce que nous voyons maintenant, mais pour certains, ça peut être intéressant, le livre de Manaranch. Hein. Pour nous, les hommes pour nous, les hommes, la rédemption. Il y a tout un aspect de critique de saint Anselme, entre autres. Critique, c'est-à-dire de position exacte du Père de saint Anselme. Et puis alors, dans la rue Rénovatio, il y a régulièrement, pour ceux qui s'intéressent, une critique de la christologie de Chilebec. Ça peut être intéressant aussi. Alors, je demanderai au père bibliothécaire, au frère bibliothécaire, ainsi que ceux qui... Il faudrait peut-être arriver à se faire une petite... quelques pages de bibliographie nécessaires, des livres à lire pour le point de vue, on pourra en parler ensemble. C'est important, même si vous ne lisez pas tout, mais je crois que c'est quand même important quand on fait un traité de théologie de voir ce que actuellement il est nécessaire d'être vu. Mais il faut d'abord entrer dans saint Thomas, première chose, puis ensuite on complète. On doit faire l'inverse. Je crois qu'il faut d'abord entrer dans saint Thomas et puis... ensuite on complexe. Donc nous étions arrivés à l'article 3, cette chose particulière. Hein. Vous voyez bien l'ordre de cette question 2, c'est le cœur hein, de l'union elle-même, de l'union hypostatique. L'union du Verbe incarné se fait-elle dans la nature? Alors, on rejette. L'union se fait-elle dans la personne? Se fait-elle dans le suppôt ou l'hypostase? La personne ou l'hypostase du Christ, après l'incarnation, est-elle composée? Alors, je termine cet article 3. Mais c'est curieux comme ordre. Hein, on peut se poser des petites questions là-dessus. Il faut essayer de comprendre l'ordre que prend saint Thomas. Donc nous avions vu la première objection, nous avions répondu à la première objection, du moins on avait vu la réponse de saint Thomas. Il voit tout de suite la seconde objection. L'hypostase, au dire de Boèce, est une substance particulière. Mais il est manifeste que dans le Christ, en plus de l'hypostase du Verbe, il y a d'autres substances particulières, telles le corps et l'âme et leurs composés. Bon, c'est toujours cette idée de voir jusqu'où nous pouvons aller dans l'ordre de l'individualité du Christ, dans l'ordre de l'individualité de la nature du Christ. Est-ce que nous devons dire que la nature humaine du Christ a une hypostase? Ou est-ce que la personne du Verbe prend possession de la nature humaine du Christ d'une manière telle que la nature subsiste dans la personne sans hypostase propre. Et c'est le rapt ontologique divin qui s'opère dans le mystère de l'union hypostatique. Et nous pouvons contempler ce rapt d'amour, puisque c'est dans l'ordre de l'amour que nous devons regarder toute cette question. Saint Thomas l'a dit au point de départ, hein. C'est la ratio boni se communique, se diffuse. C'est toujours cette vision qu'on doit voir, jusqu'où va cette communication du Verbe de Dieu par rapport à la nature humaine. Et comment se fait, c'est le commodo, comment se fait ce rapt d'amour? Alors, on voit que l'article 3, c'est d'essayer de dire, mais enfin, il doit y avoir quand même une hypostase propre à la personne humaine, puisque la personne humaine est parfaitement individualisée. Le Christ est parfaitement individualisé dans sa nature humaine. Il est né de Marie, sous l'action de l'Esprit Saint. Et parce que c'est sous l'action de l'Esprit Saint, cette œuvre est plus parfaite que dans toute autre nativité. Et donc, il doit être parfaitement individualisé. Pouvons-nous penser une individuation sans hypostase? C'est la question. Vous voyez, c'est bien l'article 3, c'est bien cette objection 2. Alors, voici... L'hypostase signifie une substance particulière. Donc on reprend tout simplement « hypostasis significat substantiam particularem non commodo, non cocumque modo, sed pro ut est in suo complemento ». C'est le « in suo complemento » qui est important à souligner. L'hypostase signifie une substance particulière, individuelle, non pas quelconque, mais achevée et complète. Donc, in suo complemento, c'est-à-dire dans son achèvement plénier. Elle est un tout. Une substance particulière qui entre en union avec une autre, plus complète, comme il arrive pour la main et le pied, n'est pas une hypostase. Ainsi, la nature humaine de Christ est une substance particulière, mais parce qu'elle est unie à ce tout achevé qui est le Christ. C'est cette idée du tout. Vous allez voir constamment, c'est un des aspects sous lequel saint Thomas montre ce qu'est la personne. Et on comprend très bien, c'est une vision théologique, parce qu'au point de vue philosophique, c'est pas ça que je mettrai en premier lieu. Mais au point de vue théologique, on comprend, il veut montrer comment se fait l'unité, comment se fait l'union. Ainsi, la nature humaine du Christ est une substance particulière, mais parce qu'elle est unie à ce tout achevé qui est le Christ, Dieu est homme, elle ne saurait être appelée hypostase ou suppo. C'est cet être complet dont elle fait partie qui est hypostase et suppo. Cet être complet, c'est la personne. Donc c'est en raison de la plénitude, de l'achèvement qui est impliqué dans hypostase, qu'on ne peut pas dire que la nature humaine assumée dans le Verbe de Dieu, dans le Christ, est une hypostase. Mais elle est une substance individuelle. Alors, troisième objection, l'hypostase du Verbe n'est renfermée ni dans un genre, ni dans une espèce, et pourtant, le Christ en tant qu'homme appartient à l'espèce humaine. Car comme l'exprime Denis, celui qui par nature dépasse essentiellement tout ordre créé, s'est enfermé lui-même en notre nature. Or, pour appartenir à l'espèce humaine, il faut être une hypostase de cette espèce. Il n'y a donc dans le Christ une autre hypostase que celle du Verbe de Dieu. Mais là encore, essayez de comprendre comment la nature humaine est plat et parfaitement spécifiée, parfaitement déterminé dans le Christ. Alors, réponse, déjà dans l'ordre des choses créées, une réalité individuelle n'appartient pas à un genre ou à une espèce en raison de son individuation, mais en raison de sa nature que la forme détermine. L'individuation, en effet, se fait par la matière dans les êtres composés. De même, le Christ appartient à l'espèce humaine en raison de la nature qu'il s'est unie, et non en raison de l'hypostase par laquelle cette nature subsiste. Vous voyez ? Donc, sic igitur dicendum est quod Christus est in specie humana ratione naturae assumpte, non ratione ipsius hypostasis. Autrement dit, il s'agit de comprendre ce qui est dans l'ordre de la spécification et ce qui représente un état particulier. Enfin, c'est toujours la même distinction du tiesti et du pos. Est-ce que l'hypostase est de l'ordre du tiesti ou l'ordre du pos? Alors, l'hypostase est de l'ordre du pos et non pas du tiesti. Oui. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas séparer dans le mystère de l'union hypostatique, le Verbe qui assume la nature humaine et l'hypostase de la nature humaine. S'il y avait une hypostase de la nature humaine, cette hypostase serait une personne. Et donc il y aurait deux personnes. Et l'unité ne se ferait plus dans la personne. Nous l'avons déjà vu la fois dernière, je ne reviens pas là-dessus, sauf s'il y avait des questions. Autrement, je ne reviens pas, nous allons avancer. Article 4, la personne du Christ est-elle composée? Ça, c'est une très belle question. la personne du Christ, vous voyez, les trois premières questions, on sent très bien, c'est pour arriver uniquement à l'article 2. Hein. Alors c'est curieux que l'article 2 soit encerclé par deux négations. Pourquoi cet ordre-là ? J'aurais dit article 1er, article 3, article 2. N'est-ce pas ? Et de fait, il met article 1er, je comprends très bien. Article 2, je vois très bien la succession. Mais après l'article 2, l'article 3, ça tombe. Alors c'est très curieux comme ordre. Il faudrait y réfléchir à la fin. Je mets simplement la puce à l'oreille pour que vous y réfléchissiez. N'est-ce pas ? Il y a sûrement un ordre voulu par saint Thomas, ça c'est sûr, c'est pas le hasard. Saint Thomas n'a pas oublié en rajoutant ça, je crois pas. Mais c'est curieux, hein. Instinctivement, moi j'aurais mis comme ça. Nature, hypostase, personne. Puisque c'est toujours dans la perspective de voir où se fait l'union, en qui se fait l'union. Alors, si je dis qu'elle est dans la personne, alors évidemment, on peut revenir dessus en disant hypostase peut-être. Article 4, la personne du Christ est-elle composée ? La personne du Christ, c'est la personne de l'hyp, c'est la personne ou l'hypostase du Verbe. Voyez ? Mais la personne du Verbe est identique à la nature. Et puisque la nature du Verbe est simple, il est impossible que la personne du Christ soit composée. Elle est absolument simple, la simplicité du Verbe. Saint Jean Damascène écrit, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons deux natures, mais une seule hypostase composée de l'une et de l'autre. Composée de l'une et de l'autre. Voici le raisonnement de saint Thomas. La personne ou l'hypostase du Christ peut être considérée à un double point de vue. Sur la subtilité du théologien. En elle-même, d'abord, et sous ce rapport, elle est tout ce qu'il y a de plus simple, comme la nature du Verbe. Puis, en tant qu'elle est une personne ou une hypostase, dont le rôle propre est de subsister dans une nature humaine. À ce point de vue, la personne du Christ subsiste dans deux natures. Sans doute, il n'y a qu'un seul être subsistant, mais remplissant une double fonction de subsistance. Un delicet sit ibi unum subsistens, est tamen ibi alia et alia, ratio subsistendi. C'est très difficile à traduire. Hein, pour ça, quand on dit fonction, ça ne va pas. Vous voyez bien, le texte latin est beaucoup plus fort. Bien qu'il soit là un subsistant, qui est le Christ. Le Christ est une réalité subsistante. Cependant, et là, est tamen ibi, alia et alia, ratio subsistendi. Donc c'est du côté de la ratio subsistendi qu'on va voir qu'il y en a deux. Il y a un unum subsistens. Cherchez pas à comprendre, c'est le mystère là. Mais c'est le mystère, c'est ça le mystère. Mais c'est impossible à penser à nous. On va dire, ah, j'ai compris. J'ai compris le mystère de l'incarnation. Je vois ce que dit saint Thomas. Ça, c'est autre chose. Je comprends ce que dit saint Thomas. Et je comprends comment saint Thomas dit ça pour éviter toutes les objections qu'on pourrait faire. Vous voyez, je relis le français du père Héry. Sans doute, il n'y a qu'un seul être subsistant, mais remplissant une double fonction de subsistance. Alia, ratio, ratio. Alors, est-ce que la ratio, c'est une fonction ? En gros, oui. Mais en réalité, c'est plus subtil que ça. C'est dans l'unité même du Verbe que que je dois voir alia et alia ratio subsistanti. Et c'est en envisageant cet être unique subsistant en deux natures que l'on peut dire que la personne est composée. Et sic dicit persona composita in quantum est unum duobo subsistit. Donc il y a une personne composée dans le Christ qui est absolument simple, en ce sens qu'il y a un seul qui subsiste, c'est le Verbe qui assume la nature humaine, mais cette personne est composée en tant qu'elle l'assume. Et alors, jusqu'où pouvons-nous aller dans cette alia et l'alia? On recule le problème, c'est ça qui est intéressant, on recule le problème, mais le mystère demeure toujours. Alors vous comprenez que c'est en face de cette alia-alia que donne saint Thomas. Allô, allô, c'est alia-alia. Subsistendi. Donc, subsistant de deux manières différentes, parce que le Verbe subsiste d'une manière différente dans la nature divine et dans la nature humaine. C'est évident. Il subsiste d'une manière différente. D'un côté, il subsiste dans la simplicité absolue de l'être de Dieu. Donc, le Verbe subsiste dans la nature divine dans une simplicité absolue, la simplicité de la nature divine, tandis qu'il subsiste dans la nature humaine en assumant cette nature qui est complexe. Il fait que cette nature subsiste dans la simplicité du Verbe. Et c'est en ce sens-là que je peux dire que la personne du Christ est composée. Alors, je vois tout de suite la première réponse, c'est la solution de la première difficulté ressort de ce que nous venons de dire. Toute seconde question, seconde objection. Toute composition suppose des parties. Mais la nature divine ne peut être partie d'un tout, car toute partie est comme telle imparfaite. La personne du Christ ne peut donc pas être composée de deux natures. La réponse. Nous disons que la personne est composée, cette composition particulière de deux natures. Non pas parce que les natures sont parties, mais plutôt parce qu'elles font nombre. Toute réalité où se trouvent deux éléments peut de la même façon être dite composée. Vous voyez, les natures demeurent distinctes dans le Christ. Et parce que les natures demeurent distinctes dans le Christ, nous devons dire personne composée. Si les natures n'étaient pas distinctes dans le Christ, alors il pourrait y avoir une fusion des natures. Alors on aurait une nature, on aurait une personne simple. Mais comme les natures demeurent distinctes, il faut préciser cette distinction dans l'unité. Alors, seconde, troisième objection, le composé semble devoir être homogène à ses parties. Si par exemple les parties sont corporelles, le tout lui aussi est corporel. Si donc dans le Christ il y a composé de deux natures, ce composé sera lui-même une nature et non une personne. L'union dans le Christ se fera donc dans la nature, contrairement à tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Alors, réponse. Le composé n'est pas nécessairement homogène aux composants. Cela ne se produit qu'à propos du continu dont les parties sont elles-mêmes continues. Mais l'animal est composé d'un corps et d'une âme et ni l'un ni l'autre n'est animal. C'est toute la question de la composition. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement quand on dit personne composée? Il ne faut donc pas comprendre personne composée comme des parties continue, c'est bien évident. Alors on aurait un tout. Il faut les comprendre, alors c'est l'analogie qui prend ici, il faut les comprendre comme justement l'animal est composé d'un corps et d'une âme. Le corps et l'âme, vous voyez, c'est une analogie, hein, parce qu'il ne faut surtout pas d'une façon univoque, parce qu'alors on retomberait dans ce qu'on a dit, impossible de comprendre l'union du verbe et de la nature humaine à la manière de l'âme et du corps. Mais vous voyez, ici on prend l'analogie dans sa fine pointe, l'union de l'âme et du corps, en disant qu'il y a quelque chose d'analogue qu'on retrouve dans le mystère du Christ. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve l'unité du Christ dans les deux natures, l'unité du Verbe dans les deux natures. Les deux natures restent distinctes dans l'unité du Verbe. Et parce que les deux natures restent distinctes dans l'unité du Verbe, je peux dire personne composée. Vous voyez ? Article 5, dans le Christ, l'âme et le corps sont unis. Alors si c'est plus facile. La subtilité de la question, c'est l'article 4. Ce qui est plus subtil. Maintenir la simplicité du Verbe et la composition du Christ. Et il le faut. Il faut maintenir les deux. Il faut maintenir la simplicité du Verbe. Le Verbe n'est pas altéré par le mystère de l'incarnation. Donc il reste absolument simple. Et cependant, en raison même du mystère de l'incarnation, je peux dire que la personne du Christ est composée. Si vous l'avez demandé, hein, à dire comme ça, pifomètre directement, qu'est-ce que vous auriez répondu ? Je vais dire que la personne du Christ, puisque c'est le Verbe, elle est simple. Ah oui, mais elle subsiste dans la nature humaine. Et du fait même qu'elle subsiste dans la nature humaine, il y a une composition qui se fait. Parce que ça fait nombre. Oui, ça fait nombre. C'est ça qui est très, très difficile pour nous. C'est très difficile pour nous, parce qu'on a tenté de dire la créature et le créateur ne font pas nombre. Alors, ça dépend sous quel point de vue. Ils ne font pas nombre du côté de l'être. Enfin, au sens absolu, c'est que ça n'ajoute rien à Dieu. Mais si je regarde la nature du Christ, je dois dire que la nature du Christ est autre que la nature divine. La nature humaine du Christ est autre. Et donc, la subsistance du Verbe subsiste autrement, d'une façon autre, dans la nature divine et la nature humaine. Oui ?
Est-ce qu'on peut dire donc que le Christ, en lui-même, est la nature divine et dans son mode ?
Non. Plus que ça, c'est pas dans son mode.
Mais en lui-même, il est la nature divine, ça on peut dire.
Non, oui, le Christ, mais en lui-même, il est aussi la nature humaine.
Mais ça te m'a dit in se.
Ah, c'est le Verbe, fais attention.
Sicudum id quod est in se.
Oui, mais c'est le Christus. C'est le sujet, c'est quoi ?
L'ipos. La personne.
Ah oui, la personne.
La personne du Christ.
Oui, la personne.
Le Christ.
Ah non, non, c'est pas la même chose. Parce que vous prenez la personne, donc c'est le Verbe. Le Verbe en lui-même, in se.
Ah oui,
c'est ça, ça va de soi.
La personne du Christ, c'est Dieu.
La personne du Christ, c'est Dieu.
Dans un mode humain.
Oui, ah, pas dans un mode humain. Parce que c'est plus qu'un mode. C'est la substance de la Dieu humaine.
Dans un mode substantiel.
Donc c'est plus un mode. Mais, c'est ça qui est toujours très très difficile. Et c'est là où le mystère. Il y a un mystère. Que nous... Alors c'est beau de voir jusqu'où nous devons aller. Moi je crois que c'est toujours la question. C'est l'unité, maintenir l'unité et l'altérité. Dans l'unité du Verbe, comprend nature humaine, nature divine, nature humaine. Alors jusqu'où cette nature humaine est-elle comprise dans son individualité? Elle n'a pas d'hypostase, elle n'a pas d'autonomie dans l'ordre de l'être. Oui, j'ai dit ça, c'est parce que nous allons voir, quand on va se poser la question, où les thomistes ont des positions diverses, où les textes de Saint Thomas, on peut se battre sur les textes de Saint Thomas indéfiniment, Le père Padfort s'est opposé au père Nicolas là-dessus, n'est-ce pas? Donc à l'intérieur de thomistes qui sont de bons thomistes, ils diront deux essais. C'est très subtil, hein? Deux essais dans le Christ. Donc deux exister, si vous voulez. Deux exister dans le Christ. Un exister divin et l'exister humain. Alors vous voyez que c'est pour ça que je dis c'est rond, parce que c'est là les principes. Hein. Les principes sont donnés là. Si on a saisi ça, c'est une conséquence, comme dit saint Thomas. C'est une conséquence, savoir s'il y a un essai ou deux essais dans le Christ. C'est une conséquence du mode d'unité. Alors je dis du mode d'unité, ça je veux bien, du mode d'unité. Il y a un mode d'unité particulier, cette personne est composée. Alors, si la personne est composée, y a-t-il encore un essai ou deux essais? Oui. Jusqu'où devons-nous aller dans la nature humaine subsistant dans le Verbe?
Oui. S'il y avait deux essais, ça pourrait plus être Dieu.
Vous allez trop vite, mais ça on le verra. Hein. Maintenez le point d'interrogation. Hein. Lisez le père Nicolas là-dessus. Et lisez le père Padfort. Mais ça, nous le verrons à ce moment-là. Alors, comme ce sont deux thomistes qui veulent interpréter bien saint Thomas, et ça a des conséquences, il ne faut pas dire du tout que c'est une lutte scolastique, non, ça a des conséquences par rapport à toute l'attitude psychologique qu'on attribue aux crises, vous voyez, c'est tout le problème d'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons projeter sur le Christ la psychologie humaine? Dans quelle mesure? Alors, si on ne veut pas la projeter, les gens diront, mais donc, le Christ n'est pas un homme parfait. À savoir, est-ce que ça fait partie de l'homme parfait de projeter toute la psychologie? Bon, il y a les deux problèmes, vous voyez, le problème de l'essai, alors ça c'est un peu plus sérieux, parce que c'est au niveau métaphysique, et puis le problème de la psychologie. Ça va très loin, ça, et vous verrez que tout de suite, hein, dès que vous prêcherez ou vous ferez des conférences là-dessus, immédiatement l'objectant viendra. Donc il faut être très précis dans le sens de la mesure où on peut, on sert le mystère. On sert le mystère, pas plus que ça. Le mystère demeure, mais on sert le mystère. Je donnerai des exemples quand on sera dedans, parce que ce sera important. Alors, dans le Christ, l'âme et le corps sont-ils unis? De l'union de l'âme et du corps résulte en nous une personne, une hypostase humaine. Par suite, si l'âme et le corps sont unis dans le Christ, il s'ensuit que leur union constitue une hypostase. Nous revenons. Cette hypostase ne peut être celle du Verbe de Dieu, qui est éternel. Il y aura donc dans le Christ une personne ou une hypostase autre que celle du Verbe, ce qui est contraire à ce que nous avons dit précédemment. Donc ça, c'est loyal comme objection. Alors, réponse. Le corps ne peut être dit animé qu'à la condition d'être uni à l'âme. Or, cette qualification est donnée au corps du Christ par l'Église. Lorsqu'elle chante, il daigna naître de la Vierge en prenant un corps animé. C'est donc que l'union de l'âme et du corps est réalisée dans le Christ. Autrement dit, dans le Christ, il y a une conception analogue à toute celle de tous les êtres humains. C'est toute la question de la conception immaculée dans le Christ. Cette conception a eu lieu nécessairement par la création d'une âme. Il y a donc dans le Christ une âme créée par Dieu. Est créé au premier moment de la conception. Là, on est sûr, au premier moment de la conception. Et cette âme créée, tout de suite, a subsisté dans le Verbe. Alors, voyez, saisir les moments successifs dans la genèse divine du Christ. L'âme est créée par Dieu, donc est créée par la très sainte Trinité. Elle est créée par la très sainte Trinité et elle est créée en Marie au premier moment de la conception. Voici la réponse de saint Thomas. Le Christ est homme au même sens que les autres hommes. Christus dicit homo, uni voce, cum hominibus alis. Selon un sens univoque, selon un sens le même pleinement, c'est-à-dire qu'il appartient à la même espèce, selon cette parole de l'apôtre, il est devenu semblable aux hommes. Mais il est de la nature de l'espèce humaine que l'âme soit unie au corps. La forme, en effet, ne constitue l'espèce qu'à la condition de devenir l'acte de la matière. Et c'est précisément à cela que se termine la génération. En laquelle la nature tend à communiquer sa propre spécification. Par conséquent, dans le Christ, l'âme a dû nécessairement être unie au corps. Soutenir le contraire est hérétique, car c'est nier la réalité de l'humanité du Christ. C'est bien évident. Si l'âme n'est pas unie au corps, on n'est pas en présence d'une nature humaine. Le propre de la nature humaine, c'est cette union substantielle de l'âme et du corps. Alors évidemment, pour tous ceux qui n'acceptent plus l'âme, vous voyez, la distinction d'âme et du corps, hein, et aujourd'hui ils sont nombreux. C'est évident que le problème devient très très compliqué pour le Christ. Alors, puisque pour Merleau-Ponty, il n'y a pas de distinction entre âme et corps. Alors, voyons tout de suite la réponse à la première objection. Certains auteurs, voyant que l'union de l'âme et du corps dans les hommes ordinaires constituait une personne, ont refusé d'admettre dans le Christ cette union pour éviter de placer en lui une nouvelle personne ou hypostase. Mais s'il en est ainsi dans les autres hommes, c'est que l'union de l'âme et du corps a pour résultat chez eux de les faire exister par eux-mêmes. C'est par l'âme que le corps subsiste. Et l'âme en elle-même subsiste. Elle a laissé qu'elle communique au corps. Dans le Christ, au contraire, cette union aboutit à joindre la nature ainsi composée à une réalité supérieure qui subsiste en elle. Aussi, l'union de l'âme et du corps dans le Christ ne constitue pas une nouvelle hypostase ou personne, mais se fait au profit d'une personne et d'une hypostase déjà préexistante, celle du Verbe. Vous voyez ? C'est que le Verbe, si on peut se le dire, le Verbe subsiste éternellement et va assumer l'union du corps et de l'âme. Alors, l'âme ne va pas subsister antérieurement. L'âme, il y a deux positions, vous voyez, imaginatives. Ce serait de faire que l'âme subsiste dans le Verbe avant son union, ou bien que l'âme subsiste dans le corps, et puis qu'ensuite le Verbe l'assume. Il faut comprendre que c'est simultané. Le Verbe assume la nature humaine, c'est-à-dire il assume l'âme informant le corps, qui fait que l'âme du Christ n'a jamais subsisté en elle-même, indépendamment du Verbe. Autrement, vous avez une position qui est impossible à soutenir au point de vue profond. Qu'on ne dise pas pour autant que l'union de l'âme et du corps a moins d'efficacité dans le Christ qu'en nous. L'adjonction d'une réalité à quelque chose de plus noble ne lui enlève pas, en effet, sa puissance ou sa dignité. Elle l'accroît plutôt. C'est ainsi que l'âme sensitive, qui, dans l'animal, dont elle est la forme dernière, constitue l'espèce, croît encore en noblesse et en vertu dans l'homme, du fait que la perfection propre de l'âme rationnelle se trouve lui être adjointe. Ça, c'est une chose très belle, c'est une analogie qui est très belle aussi, de montrer que normalement, l'homme est plus sensible que l'animal. Quand vous marchez sur le pied d'un chien, n'est-ce pas, dites-vous que c'est moins grave que de marcher sur le pied d'un homme. Parce que c'est quand même... Il est moins sensible. Parce que l'âme sensible est assumée par une âme spirituelle. Et alors, étant assumée par une âme spirituelle, l'âme sensitive va avoir une perfection plus grande. De même, vous voyez l'analogie, de même, l'union de l'âme et du corps est plus parfaite dans le Christ qu'en nous. Ça, c'est très très beau pour comprendre comment, normalement, Jésus ne devait pas mourir. Parce que l'union de l'âme et du corps dans le Christ est absolument parfaite. Elle est unique. Et elle est absolument parfaite. C'est pour ça que, normalement, Jésus ne devait pas mourir. Parce que, pour nous, étant donné l'infection du péché, étant donné la conséquence du péché, notre âme n'informe pas pleinement et totalement notre corps. Il y a une possibilité de corruption qui est liée au péché originel, comme conséquence du péché originel. S'il y a une possibilité de corruption, ça prouve la possibilité que l'âme n'informe pas substantiellement, pleinement et totalement le corps. Tandis que dans le Christ, l'âme informe totalement et pleinement le corps d'une manière telle que le Christ ne devait pas mourir. Puisqu'il était fils de Dieu, c'est-à-dire puisque de fait l'union de l'âme et du corps dans le Christ était tellement parfaite parce qu'elle subsiste dans le Verbe que le corps est totalement informé substantiellement. Oui. C'est très beau ça, parce que ça fait comprendre le mystère de l'incarnation dans son point de vue premier, si vous voulez, en Marie. C'est Marie qui a connu cela, l'union de l'âme et du corps du Christ est plus parfaite que l'union de l'âme et du corps de tous les autres hommes. Et plus parfaite que celle qui existait même avant le péché, c'est sûr. Puisque c'est dans le Verbe que se fait cette union. Et si c'est dans le Verbe que se fait cette union se fait selon un mode plus parfait. D'où l'analogie que prend saint Thomas. Seconde objection. L'union de l'âme et du corps constitue une nature spécifiquement humaine. Mais d'après saint Jean Damascène, on ne doit pas mettre en notre Seigneur Jésus-Christ une espèce commune. Il n'y aura donc pas en lui composition de l'âme et du corps. Oui. C'est saint Jean Damascène. On voit ce que ça veut dire, une espèce commune. Alors, réponse de saint Thomas, on peut entendre la parole de saint Jean Damascène d'une double manière. Premièrement, en la rapportant à la nature humaine. En ce sens, la nature humaine ne peut être une espèce commune qu'en tant qu'elle est abstraite par l'esprit de tout individu ou en tant qu'elle se trouve dans tous les individus qui la participent. Or, il est très vrai que le Fils de Dieu n'a pas pris une nature humaine abstraite, puisque une telle nature n'est pas réelle. À moins que l'on ne pose, à la manière des platoniciens, la nature humaine en soi, comme idée séparée immatérielle. Mais alors le Fils de Dieu n'aurait pas pris la chair de l'homme, ce qui est opposé à la parole de l'Évangile. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous me voyez avoir. De même, le Fils de l'homme n'a pas pu s'unir à la nature humaine telle qu'elle se trouve dans tous les individus de l'espèce. Autrement, il aurait dû s'unir à tous les hommes. Il faut donc reconnaître, comme le dit un peu plus loin Damascène, que le Christ a pris une nature humaine concrète, individuelle, mais qui ne constituant pas un individu au sens de suppo ou d'hypostase, autre que la personne du Fils de Dieu. on peut entendre la parole de saint Jean Damascène en ce sens, que l'union des deux natures, divine et humaine, ne résulte pas que de l'union de la nature humaine et divine, ne résulte pas une troisième nature qui serait commune, c'est-à-dire attribuable à d'autres individus. C'est en effet ce que le saint docteur a voulu dire, car il ajoute aussitôt « Jamais n'a été engendré, ni ne sera engendré un autre Christ, unissant la divinité et l'humanité, subsistant en elle, qui serait à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme. » On voit très bien qu'il ne peut pas y avoir une troisième nature. Donc, c'est une petite exégèse de saint Jean Damascène que donne saint Thomas. Petite exégèse très simple, c'est que c'est évident que la nature humaine qui est assumée par le Christ est une nature individuelle, ce n'est pas la nature abstraite. Jésus n'est pas l'homme en soi, il est un homme concret, individuel. Et cet homme concret, individuel, même s'il est individuel et concret, cependant n'a pas d'hypostase, c'est-à-dire n'a pas de plénitude, puisqu'il subsiste dans le Verbe. Et c'est pour ça que je dis le rapt de l'amour, hein. C'est le Verbe qui prend possession substantiellement de la nature humaine, d'une manière telle que cette nature humaine est dans le Christ, dans un état tout à fait particulier. Dernière objection. L'âme n'est unie au corps que pour lui donner la vie. Voyez bien, dites. Mais le corps du Christ pouvait très bien être vivifié par le Verbe de Dieu, qui est source et principe de vie. Il n'est donc nullement besoin de l'union, de l'unir à l'âme. Ce qui peut le plus peut le moins. Or, le Verbe est un principe de vie. Ben, si le Verbe est un principe de vie, il n'a pas besoin d'une âme. Alors on aurait un mystère de l'incarnation qui serait tout simplement le Verbe est devenu chair. Sans l'âme, on fait l'économie de l'âme. Faire l'économie de l'âme, ça simplifie beaucoup. Alors le Verbe est devenu chair. Saint Jean. C'est ça l'objection. Alors, saint Thomas répond, il y a lieu de distinguer un double principe de vie corporelle, un principe efficient, et sous ce rapport le Verbe de Dieu est principe de toute vie, un principe formel, car vivre pour les vivants, c'est être. La fameuse parole de anima, dit le philosophe. Et puisque le principe formel de l'être, c'est la forme, le principe formel de la vie, c'est l'âme. En ce sens, le Verbe ne peut pas faire vivre le corps, car il ne peut pas être sa forme. Voyez donc comment on rétablit en disant que le Christ est un vivant qui est un homme, et quand je dis qu'il est un vivant qui est un homme, c'est l'âme est impliquée dedans. Parce que s'il est un vivant qui est un homme, le Verbe ne peut pas remplacer l'âme. Parce que le Verbe n'est pas seulement cause efficiente, mais l'âme est cause formelle de vie, d'être. En ce sens-là que vivre, c'est être. Pas de questions ? Ça va ? Parce qu'on entre dans le mystère. Hein. Alors, article 6. L'union de l'âme humaine. L'union de l'âme humaine au Verbe de Dieu est-elle accidentelle ? Le mode. Est-elle accidentelle ? C'est là la question. L'apôtre écrit aux Philippiens que le Fils de l'homme s'est revêtu de notre humanité. Mais le vêtement est accidentel à celui qui le porte. La nature humaine ne sera donc unie qu'accidentellement au Fils de Dieu. Parce que c'est un vêtement. Il apparaît comme ça. En réalité, il reste Dieu, mais il apparaît comme un homme. Alors, réponse de saint Thomas, l'accident ne s'attribue pas absolument comme quelque chose, mais par manière de quantité, de qualité ou de quelque autre mode d'être de la substance. Si donc la nature humaine était unie accidentellement au Verbe, quand nous disons que le Christ est homme, nous ne lui attribuerions pas quelque chose d'absolu, mais une qualité ou une quantité ou quelque autre mode d'être. Or, une telle manière de voir s'oppose à la décrétale du pape Alexandre qui dit « Puisque le Christ est Dieu parfait et homme parfait, par quelle téméraire audace certains prétendent-ils que le Christ en tant qu'homme n'est pas quelque chose ?» N'est pas aliquid, non est aliquid. Mais il ne fait qu'un mode d'être, qu'une manière d'être. Alors pour résoudre ce problème, il faut se rappeler qu'au sujet du mystère de l'union des deux natures dans le Christ, deux hérésies se sont élevées, l'une aboutissant à la confusion des natures, ce fut celle d'Eutychès et de Dioscore, qui prétendaient que les deux natures n'en formaient plus qu'une seule, et qui professèrent que le Christ est constitué de deux natures distinctes